Calade.
Calade.
Ma radio locale curieuse et sans pub.
Allez, tout de suite, on est en compagnie du prof Patrick pour une rubrique Nuances du monde. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on va parler du talent.
Wow.
Mais ouais, tu le sais bien Mathieu, certains individus ont du talent, une minorité. La question, c'est d'où provient leur talent ? Alors, je vais proposer trois niveaux d'explication. Un, des prédispositions génétiques, je dirais. Ça a hérité des parents, de la famille. Deux, un travail acharné.
Ouais.
Et trois, une vraie volonté de réussir. Alors, quand la société permet à ses talents de se retrouver en haut de l'échelle sociale, ben, c'est que justice, ils l'ont mérité. Hein ? C'est d'ailleurs ce qu'on appelle la méritocratie, la réussite aux plus méritants. Vous serez d'accord pour dire avec moi que cette philosophie, c'est la philosophie dominante de notre société, non ?
Ouais.
D'accord. Et ben, vous savez quoi ? Tout ça, c'est un tissu d'ânerie, c'est du bullshit en boîte, c'est de l'idéologie. Oui, oui, la philosophie dominante de notre société capitaliste est fondée sur des analyses qui sont aujourd'hui contredites par la science. Et tu sais quoi ? On va déconstruire tout ça.
Le talent n'existerait pas.
On va parler de tout ça grâce à Sama Karaki, une neuroscientifique libanaise qui vit en France, qui a fait ses études en France et qui a écrit un bouquin passionnant qui s'appelle « Le talent est une fiction ». C'est un peu ce que je vais vous présenter ici. On va reprendre les trois affirmations que j'ai apportées et on va les déconstruire. La première, si j'ai dit le talent, c'est une prédisposition héritée de la famille génétique, quoi, en quelque sorte. Ça vient de la famille, c'est dans les gènes. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette affirmation ? Bah, ce qui ne va pas, c'est qu'elle se base sur une vision naïve et complètement fausse du fonctionnement des gènes. L'idée que tel gène détermine tel comportement. En réalité, on sait que ça ne marche pas du tout comme ça. Les gènes tout seuls ne déterminent et ne causent rien. En fait, les gènes ils s'inscrivent dans un champ de possibilités, mais aussi un champ de contraintes de notre environnement. Et notre développement mental, nos aptitudes se développent par une sorte de, d'évolution, de coévolution du biologique, du social et du psychologique. Cette coévolution, faite d'interactions très complexes, ça commence dès notre vie dans le ventre de maman, ça continue pendant l'enfance et ça continue tout au long de notre vie. Ça ne cesse d'évoluer. Cette idée, en fait, que tout vient du biologique, l'intelligence, le talent, etc., ça ne date pas d'hier, en fait. C'est une idée qui a été dominante tout au long du 19e siècle et puis une bonne partie du 20e siècle. Et c'est comme ça que, quand on passait de l'individuel au collectif, eh ben, on en concluait que, je dirais, les classes sociales favorisées, elles méritaient leur situation parce qu'elles étaient plus performantes, plus de talent que les classes populaires.
Il y a eu une sélection naturelle.
Voilà, on concluait aussi que les hommes, ils méritaient leur situation de domination face aux femmes, que les blancs méritaient leur situation de domination face aux noirs, etc., etc. Bref, toutes ces fadaises ont été balayées par la science à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Je mettrai dans le podcast une émission Couleur du Monde qu'on a fait en mars dernier qui parle de ça. Mais la science, elle a été plus loin, elle a prouvé que les gènes n'ont pas la même influence selon l'environnement dans lequel l'individu évolue. Alors, pour être plus précis, c'est les potentiels des individus qui se développent mieux dans des environnements plus stables. Et généralement, les environnements des personnes économiquement favorisées sont des environnements plus stables. Donc, plus les parents sont riches, plus leur environnement est stable, plus leurs enfants vont hériter de leurs traits. La science ainsi a prouvé, elle a fait des études précises, hein, je veux dire des expérimentations, pour prouver qu'un groupe d'enfants au QI élevé, mais qui vit dans un milieu socio-économique précaire, aura une moins bonne réussite scolaire et professionnelle que des enfants à un QI manifestement inférieur au premier groupe, mais qui, eux, sont élevés dans un milieu socio-économique plus aisé, donc plus stable. Donc tout ça, c'est prouvé par la science. Conclusion de notre premier point, affirmer que le talent provient mécaniquement de nos gènes ne correspond à aucune réalité. Deuxième affirmation que j'avais balancée au début, le talent, c'est le résultat d'un travail acharné.
Ouais.
Alors, il y a des éléments incontestables dans cette affirmation. Quand on pratique, quand on travaille sur un sujet de façon approfondie, notre cerveau, en fait, il renforce les zones synaptiques qui sont concernées, sollicitées par l'apprentissage, et il va même jusqu'à créer de nouveaux synapses. Les synapses, c'est les cellules du cerveau, ce qui va encore renforcer la performance. Donc ça, c'est vrai. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi, à entraînement égal, certains réussissent mieux que d'autres ?
Ouais.
Et voilà une bonne question. Pour y répondre, on va aller vers la sociologie. La sociologie, elle va nous apporter des éléments de réponse en nous parlant de la notion de capital. Les familles accumulent du capital, mais il y a trois catégories de capital. Il y a le capital culturel, le capital économique et le capital social. Pour rendre ça compréhensible, je vous fais une petite histoire. Les enfants des classes aisées vivent depuis leur naissance dans des modes de vie un peu élitistes. On leur transmet des codes culturels, des connaissances, des références qui sont celles qui leur sont demandées dans les filières scolaires d'élite. Cool, c'est le capital culturel. Et puis leurs parents, ils ont des moyens financiers, ce qui veut dire qu'ils peuvent encore renforcer cet impact en les inscrivant dans les meilleures écoles, en leur faisant faire des voyages, en leur donnant des cours particuliers. Ça, c'est le capital économique. Mmh. Et puis ces familles, elles ont des réseaux de connaissances, de relations sociales qui leur donnent accès à des informations très précieuses, voire du piston, pourquoi pas, des conseils, des ressources. Ça, c'est le capital social. Le sociologue de référence qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est Pierre Bourdieu. Hein, on peut lire l'œuvre de Pierre Bourdieu, il travaille beaucoup là-dessus. Donc la somme de ces trois types de capital, ça donne un avantage incomparable aux enfants qui en bénéficient, qui sont plutôt les enfants de classe favorisée. Concernant un autre cas, la réussite sportive, la réussite artistique, les études elles ont montré que le facteur qui pèse le plus dans la réussite des enfants, c'est quoi ? C'est le degré d'implication des parents.
Okay.
Plus les parents sont impliqués, plus l'enfant réussit. Et plus les parents savent aider leur enfant à gérer au mieux la dimension émotionnelle de son investissement, plus l'enfant réussit. Mais on va encore élargir notre champ d'analyse au-delà du milieu familial, au-delà du milieu social. La société, dans son ensemble, elle met en avant des réussites individuelles et systématiquement, elle va occulter tout un processus en fait collaboratif qui est indispensable à ces réussites. Alors, j'ai fait, il y a environ un an et demi, deux ans, deux chroniques sur Steve Jobs, ouais, le fondateur d'Apple, que j'avais appelé « Steve Jobs n'a pas changé le monde ». Je vais mettre le lien vers ces chroniques parce qu'elles constituent un très bon exemple de ce que je suis en train d'expliquer. Alors, pour aller plus loin, les scientifiques, tout comme les créateurs, généralement, ils vont se concentrer, ils vont aller habiter dans des lieux qui sont très denses, des agglomérations urbaines, des universités, des centres de recherche, des grandes écoles, souvent des lieux qui rassemblent ces trois types d'institutions. Et c'est leurs échanges qui va générer la créativité, l'invention de ces chercheurs ou de ces chefs d'entreprise. Et cette créativité, elle se nourrit de la densité des interactions entre toutes ces personnes rassemblées dans des lieux vraiment très, très précis. On pense à la Silicon Valley, par exemple. C'est des mécanismes en fait, subtils de coopération, de transmission, le tout fondé sur de la réciprocité. Je donne, je reçois. Voilà, ça c'est un point extrêmement important de la réussite, aussi bien de scientifiques, de chefs d'entreprise, de créateurs. Un autre point également, on va rester sur la question du collectif et on va encore prendre de l'ampleur, une ampleur un peu historique. Les études scientifiques ont montré que les performances intellectuelles, les performances sportives, les performances artistiques n'ont pas cessé de progresser depuis le 19e siècle. Tous, nous tous, êtres humains, sommes plus intelligents et plus performants que nos prédécesseurs. Pour quelle raison ? D'abord parce que l'éducation s'est améliorée, la nutrition nous a mis en meilleure santé, la santé s'est améliorée, la formation, les matériaux de formation, les méthodes de formation se sont améliorées, les enseignants étant de plus en plus spécialisés sont de plus en plus performants et tout ça, ça fait des gens de plus en plus intelligents et de plus en plus performants. Conclusion de cette deuxième partie, la quantité de travail et d'entraînement joue bien sûr un rôle dans l'émergence du talent, mais les apports du milieu social d'origine, les apports du milieu familial, la qualité de l'environnement jouent un rôle encore plus décisif.
Bien sûr.
On va passer à notre troisième affirmation préalable, qui était le talent est le résultat d'une vraie volonté de réussir. Donc c'est la question de la motivation derrière. Derrière cette question de la motivation, en fait, les experts en psychologie, ils nous ont expliqué des choses très intéressantes. Ils nous disent... Nous tous, individus, nous formons des hypothèses sur nous-mêmes. Ça, c'est implicite, c'est pas tellement explicite, mais c'est implicite. On forme des hypothèses sur nous-mêmes, on forme des hypothèses sur le monde qui nous entoure, de façon à donner du sens au monde, de façon à se créer une vision du monde. Et ces hypothèses, elles vont jouer un rôle clé dans le niveau de motivation, de persévérance des individus quand ils investissent un domaine donné. Et c'est ainsi que la psychologue Carol Dweck a créé la théorie des mindsets. Les mindsets, c'est des états d'esprit. Et elle dit qu'il y a deux grandes catégories d'états d'esprit selon les personnes qui prédominent. Il y a l'état d'esprit fixe. C'est des personnes qui pensent un peu que notre caractère, nos compétences, nos capacités créatives, notre intelligence, tout ça, c'est des données statiques qui ne se modifient pas. On a reçu ça, ça ne bougera pas. Mmh. Il y a un autre état d'esprit qu'on appelle l'état d'esprit de croissance qui est plutôt l'idée que... On a des capacités, on a un certain niveau de talent, mais en fait, on peut s'améliorer. On peut s'améliorer en travaillant dessus, on peut apprendre à apprendre, en quelque sorte. Et bien, les études des psychologues montrent clairement que le deuxième état d'esprit, que j'ai appelé l'état d'esprit de croissance, c'est celui-là qui est le plus susceptible de faire progresser les individus. Parce qu'en fait, ils ne voient pas l'échec comme une sanction, ils voient l'échec comme une opportunité de progresser, en quelque sorte. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer d'état d'esprit. Si on était dans l'état d'esprit fixe, on peut passer à l'état d'esprit de croissance. Ça, ce n'est pas un problème. Sauf que c'est bien, mais en fait, ce n'est pas suffisant pour garantir la réussite. Encore faut-il tenir compte, comme d'habitude, de l'influence de notre environnement. D'accord ? Par exemple, les études ont montré que les enseignants considèrent leurs élèves de façon soit positive ou soit négative. Et ben, on s'est aperçu que cette considération positive ou négative de tel ou tel, sur tel ou tel élève de la part de l'enseignant, ça a des effets directs sur les performances des élèves en question. Mmh. Et donc, il a aussi été montré, pour ajouter à ça, que les enseignants qui ont cet état d'esprit de croissance, c'est-à-dire qui sont convaincus qu'en fait on peut s'améliorer, on peut apprendre à apprendre, eh bien, c'est eux qui permettent à leurs élèves de se développer le mieux, en ouais. quelque sorte. D'accord ? Donc ça, c'est des influences extrêmement fortes pour les individus. On passe tous par l'école, par le lycée, par les études. Un autre élément d'influence, encore plus large de notre environnement, de la société. La société, elle est remplie de croyances et de stéréotypes qui sont partagés par une partie importante de la population. Eh bien, ces croyances, elles ont des effets sur les choix et les performances des individus. Ainsi, par exemple, il y a une croyance très, très connue qui est que les femmes sont moins douées pour les maths que les hommes. C'est connerie et compagnie, on le sait, hein, la science a prouvé que c'est connerie et compagnie. Mais en fait, comme cette croyance est très répandue...
Ça a la vie dure, quoi.
Et ça suffit pour que ouais. les femmes ne s'orientent pas vers des activités fondées sur une forte performance en maths. Et donc, ça confirme cette réalité fausse, en quelque sorte. Conclusion de cette troisième partie, oui, la volonté de réussir a son importance, mais bien moins que l'état d'esprit de la personne et bien moins que toutes les influences de notre environnement. Ouais. Voilà, on en a terminé. On va pouvoir faire une petite conclusion générale sur cette question du talent. Vous l'avez compris, le talent tel qu'on le conçoit, la philosophie de la méritocratie hein, qui en découle, tout ça, ça constitue d'abord des, ouvrez les guillemets, discours unificateurs à caractère sociopolitique. C'est bien, qu'est-ce oui, que ça veut bah dire ouais. ce truc ouais. Ça veut dire, ils sont très utiles pour faire avancer le troupeau dans la bonne direction. C'est ça, c'est rien d'autre que des machines à faire avancer le troupeau. La réalité, c'est que les individus qui vivent dans des contextes, ceux qui vivent dans des contextes économiques peu stables, économiquement, culturellement peu favorisés, ben, ils auront à fournir des efforts immenses pour arriver à des niveaux qu'on identifiera comme du talent, tandis que d'autres individus qui sont nés dans des contextes plus stables, des milieux plus favorisés économiquement, culturellement, ils recevront cette étiquette avec infiniment moins d'efforts et d'engagement personnel. Le talent est une fiction. J'en ai terminé. Mathieu, lisez Sama Karaki, je mettrai en lien son ouvrage.
C'est pas très joyeux finalement, parce que c'est un peu un mythe qu'on nous
dévoiler le réel derrière les mythes, ouais. c'est peut-être pas joyeux, mais ça nous permet d'avancer.
C'est vrai, merci beaucoup en tout cas pour ça, prof Patrick, c'était une super rubrique. À bientôt.
À plus.
Paroles libres et découvertes musicales.
Calade.
Calade.
Ma radio.